pour penser le roman d'une manière nouvelle, j'aimerais que vous nous disiez, Philippe Soler, si à l'intérieur de votre groupe tel quel, Flaubert représente quelque chose.
Certainement. Et par exemple, il est assez frappant que, si vous voulez, en 20 numéros de notre revue, nous ayons consacré au moins 2 textes critiques assez importants, je crois, à Flaubert. Alors que nous ne nous sommes pas beaucoup préoccupés d'autres écrivains de la même époque, et du 19e siècle en particulier. Je reprendrai ce qu'a dit Camille Bourniquel. En effet, il me paraît que la révolution apportée par Flaubert, par Baudelaire et par Manet est une pré-révolution d'ailleurs, parce que la véritable révolution s'accomplit un peu plus tard avec, pourrait-on dire, Mallarmé, L'autre amour, Rimbaud et Cézanne, si on prend un peintre. Par conséquent, ce qu'il est intéressant de voir, c'est que dans Flaubert, quelqu'un qui prépare cette révolution, quelqu'un qui n'en a pas.
Il n'y a que le premier pas qui coûte.
Oui, sans aucun doute. C'est-à-dire qu'il y a eu là, en effet, ils n'ont pas été absolument victimes, si vous voulez, de cette révolution, mais ils ont été victimes d'une certaine façon.
Mais ils ont été incompris, en plus.
Incompris.
Enfin, nous touchons quand même à des écrivains qui ont été des écrivains maudits et à un peintre qui a été incompris.
Mais alors, l'importance de Flaubert, je crois, vient de sa situation extrêmement isolée au moment où il écrit par rapport à ses contemporains. C'est-à-dire que on peut dire de lui que vraiment il prend du langage une conscience tout à fait inattendue, tout à fait imprévisible, et qu'il la poursuit par ses lettres, par ses livres aussi, qui sont très différents les uns des autres. C'est quelque chose sur le quoi on n'insiste jamais assez. C'est qu'un écrivain qui écrit à la fois La Tentation de Saint-Antoine, Emma Bovary, L'éducation sentimentale, Bouvard et Pécuchet, etc., est un écrivain qui, au fond, emploie une rhétorique par livre, n'est-ce pas ?
Mais croyez-vous qu'il ait été tellement incompris ? C'est quand même une affirmation qui me trouble un peu, parce que, finalement,
oui,
les
oui.
feuilletons de Sainte-Beuve sur Flaubert sont quand même extrêmement favorables. Et ne l'oublions pas, Flaubert se situe lui-même en porte-à-faux, puisqu'il se déchaîne contre toute la génération romantique qui, à l'époque où il commence d'écrire, enfin tout au moins où il commence de publier, en 1856, couvre la littérature.
Oui, mais il me semble que là où Flaubert est incompris, c'est dans son postulat fondamental qui va être par la suite entièrement recoupé par les autres tentatives révolutionnaires de la littérature, c'est de découvrir que le langage ne sert pas à exprimer autre chose que lui-même, c'est-à-dire, ou plutôt, si vous voulez, que le langage est un véritable milieu dans lequel nous vivons, nous pensons et nous agissons constamment. Et c'est ça qu'il découvre. Si vous voulez, quand je pense à l'hommage que Proust rend à Flaubert, cet hommage où il dit, je cite la phrase de Proust, « Un homme qui, par l'usage entièrement nouveau et personnel qu'il a fait du passé défini, du passé indéfini, du participe présent, de certains pronoms et de certaines prépositions, a renouvelé presque autant notre vision des choses que Kant, avec ses catégories, les théories de la connaissance et de la réalité du monde extérieur. » Je pense que ce que Proust là décèle chez Flaubert est fondamental, parce que, en effet, personne à son époque ne considère le langage comme ça.
Mais ne sommes-nous pas ici, je crois d'ailleurs que tout écrivain est obligé de considérer le mot quand même comme son milieu. Et si un homme a considéré le mot comme son milieu, c'est Victor Hugo.
Oui, mais alors je pense, si vous voulez, que le postulat de Flaubert, c'est le suivant, il l'exprime d'ailleurs dans ses lettres, c'est que, dit-il, nous ne devons pas être des discutants, en se servant du langage, nous ne devons pas discuter, nous devons être des exposants, n'est-ce pas ? L'exposition, pour lui, c'est la poésie, et c'est ce qui pose, par exemple, le problème de la description chez Flaubert, qui est fondamental. Pour lui, il y a une distance prise par rapport au langage, et pour la première fois, je crois, dans la littérature, ce qui fait de lui un moderne.
Oui, mais alors là, je crois que nous sommes en train de mêler deux choses assez différentes, à savoir les caractères et le milieu dans lequel il ne veut pas entrer, puisque le romancier doit être pour lui une sorte de dieu qui survole tout cela, et d'autre part, l'utilisation du vocabulaire qui était le point de départ. Enfin, François-Rigide Bastide.
Oui, c'est là que la révolution flaubertienne. Et c'est là que c'est utile de redécouvrir les écrivains, parce qu'on les redécouvre d'une façon un peu différente et quand même on sollicite un peu les choses. Vous comprenez, la lettre de Proust sur Flaubert, c'est très beau, mais je ne suis pas sûr que Flaubert puisse être réduit à un nouvel usage du passé défini, ou
et
comme
si,
dit Madame Sarraute, un usage de la conjonction de coordination. Je crois que quand même on peut dire en tout cas que Flaubert est le premier romancier, je crois, qui sait ce qu'il fait et qui y pense beaucoup plus que Balzac, dont on est toujours atterré de lire les propos, disons, critiques, enfin, les analyses de ses propres œuvres. Balzac était un romancier complètement inconscient de ce qu'il faisait, une espèce de force de la nature livrée aux mots, aux phrases, aux descriptions aussi, car il y en a tout de même beaucoup. Mais sans savoir très bien ce qu'il faisait, Flaubert, c'est ce qu'il fait, comme Baudelaire, et Camille Bricquel avait raison de le rappeler tout à l'heure, ou comme Manet.
Je crois qu'il y a une opposition extrêmement différente, à savoir que toute cette génération de romanciers romantiques a publié dans des revues, et que le problème, c'était quand même, s'ils avaient du génie aussi, le même problème se posait pour eux, c'était de remplir des pages. Alors il est évident que c'est très commode, les descriptions pour remplir des pages, la documentation pour remplir des pages.
Oui, mais il n'y a pas
avec de... Flaubert, nous avons un romancier qui, au contraire, resserre, et qui ne veut pas que ses personnages soient absorbés par le milieu, qui, à propos d'éducation sentimentale, se pose constamment la question. Le milieu est quelque chose de très important, puisque c'est la révolution de 48, mais comment faire pour que les personnages ne disparaissent pas dans le milieu? Christian Murcio.
Oui, moi je crois que tout de même, très banalement, Flaubert était un romancier pour lequel les sujets de roman, les caractères, tout ça comptait énormément. Il était sûrement plus conscient qu'un autre romancier ou qu'aucun des romanciers qu'il avait précédé de ce qu'il bâtissait, mais le réduire à une spéculation sur le langage, où ça me semble très extérieur. Quant aux descriptions, je crois que là, il faut se souvenir du mot admirable de Delacroix, auquel Victor Hugo reprocha à propos d'une de ses toiles l'assassinat de l'évêque de Liège. Victor Hugo lui a dit « on ne voit pas l'épée ». Et Delacroix a répondu « j'ai tâché de rendre l'éclair de l'épée ». Et je crois que les gens qui savent vraiment décrire, c'est-à-dire Flaubert, et ça je suis navré de dire que je ne sens absolument rien de cela dans les descriptions du nouveau roman, qui sont énumératives, qui ne sont pas lyriques, qui ne sont pas recréatrices, qui ne sont pas synthétiques, ça je ne sens pas du tout le passage de la description de Flaubert à l'énumération fastidieuse, au dessin d'architecte sans profondeur, sans air du nouveau roman.
Donc, voilà. Camille Bourdiquel.
Non, je voudrais dire une chose. Je pense que chez un romancier de la taille de Flaubert, deux directions peuvent s'imposer, n'est-ce pas? Il est évident que si on examine le phénomène de recréation, il fait partie du désir de totalité qu'il y a chez Flaubert. Mais je crois quand même qu'il a eu une perception très nette de ce qu'allaient être les recherches purement axées sur le langage à l'intérieur du roman. J'ai là une citation qui me semble très importante, et je crois qu'en effet, elle est de celle que les jeunes romanciers peuvent le plus méditer quand ils relisent la correspondance. « Ce que je voudrais faire, dit Flaubert, c'est un livre sur rien, un livre sans attache extérieure, qui se tiendrait de lui-même par la force interne de son style, un livre qui n'aurait presque pas de sujet, ou du moins, où le sujet serait presque invisible, si cela se peut. »
Et j'ajoute que Flaubert continue en disant « Je crois que l'avenir de l'art est dans ses voies. »
Je ne sais pas si dans le nouveau roman, dans la mesure où il utilise cette lettre, il n'y a pas quand même une confiscation, en ce sens que pour Flaubert, écrire un livre sur rien, c'est finalement écrire un livre comme Candide, c'est-à-dire quelque chose de très mouvementé, qui est bête comme la vie.
Je crois que c'est extraordinaire de voir chez un homme qui, sur certains points, me semble avoir été extraordinairement limité dans sa réflexion sur certaines choses philosophiques, certains aspects religieux, n'est-ce pas, de la vie. Il me semble, par exemple, que la présence de Baudelaire est infiniment plus éclairante que celle de Flaubert, n'est-ce pas? Mais sur d'autres, il me semble que Flaubert a introduit dans la littérature une chose qui est proprement moderne, c'est l'angoisse même de l'écrivain à travers son œuvre.
Oui, puis alors en plus, l'œuvre qui n'est pas un monde, comme l'œuvre de Balzac ou l'œuvre de Sand, mais l'œuvre qui est quand même une postulation des nerfs, tout en étant une œuvre très objective, puisque Camille Bourdiquel citait la correspondance. Mais si nous prenons une autre lettre où Flaubert parle de Saint-Antoine, il nous dit que, précisément, il est allé exhumer des fumiers inconnus pour infuser toute sa vie dans ce Saint-Antoine qui est si loin de lui. Et c'est en étant le plus loin de soi qu'on peut être en même temps le plus personnel.
Par exemple, dans Salammbô, la scène où Salammbô va chercher le zaïmph sous la tente du barbare est exactement parallèle à la scène de l'éducation sentimentale où Madame Arnoux va chez ce soupirant pour lui arracher la reconnaissance de dette de son mari. Là, il faut voir les choses d'un peu près et il y a toutes sortes de schémas, si je peux dire, de scènes, de situations qui se retrouvent et qui sont d'autant plus frappantes par l'écart des siècles et par l'écart aussi même de la couleur qu'il y a entre Salammbô et l'éducation.
Oui, il s'agit toujours finalement de poétiser, de transposer les événements et les événements les plus banals de la vie pour en faire une œuvre d'art. et tout en suivant la nature, essayer cette nature de lui donner la forme, de lui donner un style.
Nulle part, la description de Flaubert n'a en quelque sorte cette force plastique, le côté, si vous voulez, justement, Manet, et en même temps, le côté magique, le côté double magique, qui est très, très frappant.
Il y a quelque chose qui, d'ailleurs, est assez fascinant dans Salammbô. C'est la première fois qu'apparaît dans la littérature ce que Thibaudet a pu appeler le romantisme de province, c'est-à-dire l'homme envoûté par ses rêves dans une solitude provinciale et qui se met à faire vivre des mondes. C'est la même chose, d'ailleurs, avec la Tentation de Saint-Antoine. Alors, nous sommes un petit peu immobilisés sur ces querelles du nouveau roman, pour lesquelles, d'ailleurs, il est difficile de trancher. Mais il y a quand même d'autres aspects de l'œuvre que nous pourrions soulever maintenant. Il y a quand même, chez Flaubert, la création d'un roman français qui serait un roman de la province. Croyez-vous que cette veine flaubertiste est encore, à l'heure actuelle, son actualité, sa fécondité ?
Moi, je pense que non. D'abord, pour Salammbô, Flaubert a aussi dit « On ne sera jamais comme il a fallu être triste pour écrire un livre pareil ». Il ne faut pas oublier que les livres de Flaubert, il se les impose. Il n'y croit pas une seconde, n'est-ce pas ? Il ne croit pas du tout à leur sujet. Sa correspondance est pleine du fait...
Je crois pas. C'est séduisant comme théorie, mais ça, ouais. je crois pas. Madame Bovary, il y a cru pendant 5 ans comme un damné, et l'éducation aussi.
Il n'y croit pas en tant que ça pourrait renvoyer à une réalité quelconque, n'est-ce pas ? À une réalité extérieure au livre. Il fait un livre, n'est-ce pas ? Je ne pense pas qu'on puisse parler de Flaubert, honnêtement, sans prendre en considération le fait qu'il y a un leitmotiv dans Flaubert, n'est-ce pas ? Le style est à lui seul, d'une manière absolue de voir les choses. Je voudrais faire des livres où il n'y a qu'à écrire des phrases comme pour vivre, il n'y a qu'à respirer l'air, n'est-ce pas ? Et je pense que si justement Flaubert écrit des livres si différents les uns des autres, c'est que justement, il n'y a qu'une seule recherche qui le préoccupe, c'est celle de l'écriture elle-même. Abandonnant Saint-Antoine, dont Bouillet et Ducamp lui disent que ça n'est pas bon, il fait Madame Bovary, qui est le contraire même, qu'il s'impose, qu'il ennuie prodigieusement, n'est-ce pas ? Il ne songe qu'à revenir à Saint-Antoine, d'ailleurs, enfin, en lisant sa correspondance, on s'en rend compte. En fait, il s'impose des problèmes qui sont à l'opposé de sa nature.
Oui, mais ça, tous les romanciers ont toujours haï les romans qu'ils écrivaient. Balzac disait « je hais les romans, et particulièrement ceux qu'il faut finir ». C'est Balzac qui parle.
Y avait-il un romancier qui se forçait à écrire des choses qu'il ne se sentait pas faites pour écrire ?
Oui, ça c'est le grand argument, oui. C'est la diversité même des œuvres de Flaubert. S'il y avait eu 3 éducations et 4 Madame Bovary marquant une progression...
Au début, il veut écrire un Faust, et finalement, il écrit ce Faust constamment. C'est la Tentation de Saint-Antoine et ses multiples versions. Et puis alors, il y a l'influence de Bouillet qui lui dit « il faut s'occuper du milieu provincial où tu vis ». Alors, il est évident que c'est un auteur extrêmement impressionnable. Il est resté, au fond, très docile.
Et Flaubert se moque de la société provinciale,
je suis sûr. Eh oui, mais enfin, il ne se moquait pas de Bouillet.
Maintenant, il faut voir comment il a commencé le pensum qui était Madame Bovary, comment il l'a poursuivi et comment il l'a achevé. On exploite là un peu des déclarations qui sont d'humeur, qui sont extrêmement intéressantes. C'est exactement comme lorsque Tolstoï parle comme d'une vieille maîtresse de la Karénine et ne cesse de soupirer après le jour où il en aura fini avec la Karénine.
Il y a une chose qui me frappe beaucoup chez Flaubert, et en relisant Bouvard-Pécuchet, je l'ai senti, je m'étonne qu'on n'ait pas vu aussi en quel point cette espèce de critique extrêmement violente de toutes les institutions, de toutes les idées reçues, finalement crée une sorte de nihilisme annonciateur. Et je me demande si les personnages de Bouvard et Pécuchet ne sont pas très longtemps avant Beckett, des choses qui ne pourraient nous faire penser.
Tout Flaubert est nihiliste, je crois que Madame Bovary...
Mais le nihilisme à ce moment-là, il n'était pas le seul. Nous, Tourguenieff aussi est nihiliste, n'est-ce pas ? Pourquoi l'univers de Flaubert nous donne-t-il l'impression d'un désespoir aussi radical ? C'est peut-être la différence avec Baudelaire. Le désespoir de Baudelaire est tourné vers un ailleurs. Il est ouvert sur des possibilités de départ, vers quelque chose. Le monde de la parole chez Flaubert... C'est dans cela qu'il est si moderne, se referme sur lui-même.
Quelqu'un a parlé du fait que chez Flaubert, on assistait à une transcendance frustrée. C'est-à-dire l'avenue au premier plan d'éléments tout à fait opaques, insignifiants, insistants. N'est-ce pas ? Flaubert ne passe pas, il s'attarde. Ce que relève par exemple Geneviève Bollème dans son très très beau livre qui s'appelle « La leçon de Flaubert ». Dans Bovary, n'est-ce pas, il y a la promenade de la voiture... à un moment donné, et la longueur, l'insistance avec laquelle cette voiture se promène dans Rouen C'est ça l'avenue du désespoir, justement, dans l'œuvre de Flaubert, et qui culmine dans Bouvard et Pécuchet, parce que c'est un désespoir par rapport à la signification, et par conséquent par rapport au langage lui-même. C'est-à-dire que nous arrivons à une masse opaque, je crois que c'est Malraux qui a parlé à propos des romans de Flaubert, de ces beaux romans paralysés, n'est-ce pas ? On arrive à une espèce de paralysie, d'aphasie, n'est-ce pas ?
Total. Ralentissement.
De ralentissement, de déperdition, qui est très, très... très
mais parce que très les personnages sont comme ça, ils doivent s'exprimer comme mais ils sont.
Rien ne ressemble.
Constamment, ils se posent la question, Monsieur Homais doit dire des bêtises parce qu'il est Monsieur Homais, et les paysans de Flaubert doivent tenir des propos qui sont des propos de paysans. Oui, il y a chez lui deux aspects. Enfin, il y a un aspect très personnel, une autobiographie romantique claquante qu'il veut essayer d'exprimer dans ses Tentations de Saint-Antoine. Puis il y a la cassure du voyage en Orient et ensuite la retombée dans le culte de l'impersonnel et puis le souci de faire vivre des personnages qui sont ce qu'ils sont.
Je crois qu'il y a d'abord la maladie profonde. Enfin, je sais que ça paraît grossier de faire allusion à la vie d'un écrivain parce que c'est devenu démodé. Mais il est bien évident que la maladie de Flaubert est un drame profond qui le retire du monde et que le voyage en Orient, il n'aurait pas demandé de continuer toute sa vie à voyager et à être un romantique claquant, comme vous disiez, Pierre Cipriot. Mais je crois que la volonté de séparation du monde, son attitude vis-à-vis de Louise Collet, la façon dont il
a... Ça ne tient pas, puisque sa maladie commence à l'âge de 20 ans. Alors pourquoi cette coupure ? Pourquoi cette coupure du voyage en Orient ?
Il assume sa maladie.
Il l'assume entièrement.
Il la veut. Il veut sa perte.
Oui, absolument. Il a été profondément heureux de pouvoir s'enfermer complètement. Il est heureux d'être à Croisset quand il voit Madame Collet. Ce n'est pas à Paris, c'est plutôt à Mantes. La moitié du chemin chacun, on la voit un petit peu. Et on revient dans le gueuloir et on s'y enferme. Et on travaille parce qu'on veut non seulement travailler, ni même parvenir, ni réussir, ni épater le bourgeois, ni faire le roman.
Parce que c'était un accomplissement pour lui.
Parce que c'est un destin profondément religieux, en réalité.
C'est une vie aussi accomplie que s'il avait hanté les salons d'époque ou la vie de Maxime Ducamp.
Bien sûr.
Certainement pas.
Parce Ducamp, c'est la caricature. Bonsoir.
J'abonderai dans le sens de Christian Murciau. Je crois qu'il a lancé ses personnages pour se décourager lui-même d'une vie qu'il ne voulait pas mener, exactement comme Cervantes lance Don Quichotte dans des aventures, précisément pour s'en préserver.
Vous croyez à un mécanisme de compensation.
Sûrement.
Est-ce qu'on pourrait même aller jusqu'à avancer ce paradoxe ? Je pense en effet que Flaubert, c'est par là qu'il est en effet moderne d'une certaine façon, eh bien c'est quelqu'un qui a choisi de se taire.
Oui.
Je pense à ce qu'il disait, qu'on devait sentir dans le moindre atome, dans tous les aspects, une impassibilité cachée et infinie.
Je crois qu'il y a une phrase de Valéry qui est très éclairante, quand il dit qu'il faut abandonner les débris dont ne sait quel grand jeu. Je crois que Flaubert a abandonné ses débris. Ensuite, il s'est livré à un dessin conséquent. Et ce dessin conséquent posait pour lui tellement de problèmes que, évidemment, le moindre mot à côté faussait un livre. Il fallait tout refaire.
Une composition, un
effort de réduction à l'essentiel qui rend le métier de l'écrivain horriblement difficile. Plus le degré de la prose à son époque. Et là, nous rejoignons ce que disait Monsieur Soler, au début de cet entretien, sur le sens du langage chez Flaubert, il a le sentiment que la prose est arrivée à un degré de perfection tel qu'il faut suivre toutes les leçons et que la phrase à la fois soit simple, directe et en même temps a une surabondance, une richesse, une luxuriance.
Il a dit cela en un mot, il faut faire gras et rapide.
Seulement, ce qu'il ne faut pas oublier, n'est-ce pas, c'est que historiquement, ce qui va se produire par la suite, c'est quand même Mallarmé, c'est quand même Lautréamont, c'est quand même tout ce qui va se passer dans les années 70, qui est d'une importance considérable.
Oui, mais le flaubertiste, quand même, de l'époque, ce sera Maupassant, ce ne sera pas Mallarmé.
C'est Proust qui vient.
Sûrement, Proust pour toute la partie éthique de l'œuvre d'art. Mais quand même, le grand élève de Flaubert, aux yeux du monde, aux yeux des critiques, ce sera Maupassant.
Mais il me semble qu'il y a une très grande différence entre Flaubert et Proust, c'est que Proust est en effet une œuvre qui donne l'impression d'une fixation. Alors qu'au contraire, ce qui est extraordinaire chez Proust, c'est la mobilité interne de l'œuvre, le dynamisme de cette œuvre. Il semble que Flaubert, par rapport à cette fixité, n'ait connu qu'une forme de dynamisme, c'est la recherche d'une perfection. Car il y a une chose qui me frappe beaucoup, c'est qu'en effet, certaines de ses œuvres ont été fort mal reçues, et souvent par ses amis, par des gens en qui il avait une confiance d'ailleurs fort mal placée souvent, qui lui ont dit à la lecture de certaines de ses œuvres, c'est mauvais. Or, il a accepté leur jugement, puis il a fait une chose très mystérieuse, quelques années après, il les a recommencées. Alors, qu'est-ce que ça désigne, ce retour sur des œuvres dont on aurait dû le dégoûter? Ça désigne une recherche très profonde et une confiance, au moins dans une chose, dans le langage lui-même. Il avait l'idée que le langage était en lui-même une sorte d'expérience. Et ce n'est pas tellement loin de ce que la poésie appellera l'alchimie du verbe, dans un domaine, évidemment, qui est tout à fait différent.
Christian Murcio.
Je crois que Flaubert avait en effet cette confiance profonde dans l'expression, même si elle implique également un combat incessant. Et il a dit dans une de ses lettres et qu'il s'efforçait d'atteindre un style qui serait à la fois lyrique et qui serait aussi le style ou l'expression des sciences objectives. Cette formule montre bien qu'il croyait en l'expression et qu'il se sentait le pouvoir d'exprimer.
Il y croyait, mais il n'y croyait plus en même temps, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui dit « il me paraît de plus en plus difficile d'exprimer quoi que ce soit » et qui marque à chaque instant sa défiance devant
parce qu'il était de plus en plus exigeant, comme tout véritable écrivain, et qu'il n'avait pas simplement quelques préceptes simples. Il y avait pour lui, au fur et à mesure qu'il faisait l'œuvre, elle se défaisait, il la voulait plus rigoureuse, plus nourrie.
Je crois que nous pouvons dire en conclusion de cette émission que 4 romanciers contemporains sont quand même fascinés par Flaubert au point d'en parler avec abondance comme ils l'ont fait depuis une demi-heure. Et je crois d'ailleurs que le cas Flaubert tient peut-être à notre époque à la publication de cette correspondance. Finalement, nous connaissons Flaubert par le dessous, profondément, beaucoup mieux que la plupart des écrivains du XIXe siècle. Et en même temps, cette correspondance est une école d'héroïsme littéraire qui sera toujours fascinante comme toutes les grandes leçons.
Venez d'entendre un numéro d'analyse spectrale de l'Occident consacré à Flaubert. Une émission de Pierre Cipriot, diffusée la première fois le 13 février 1965 sur France Culture, avec André Mauroy, Marie-Jeanne Dury, François-Régis Bastide, Camille Bourniquel, Christian Murcio, Philippe Solers. Lecture Sylvia Montfort, Jean-Paul Moulineau, Jean-Marie Ferté. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.